9h, dans le bureau de Par Jupiter.
Bah tiens, tu tombes bien, Charline, parce que Juju était en train de m'expliquer que vu qu'elle est de Saint-Étienne...
De Saint-Té, bah d'abord.
Voilà, bon, bah alors, comme nos invités aujourd'hui, elle vient de Saint-Té, bah elle pourrait nous traduire ce qu'ils disent.
Alors, c'est bien, et même Juju, mais enfin, leur pièce, elle se joue en français. Et puis le titre, les pâtes à l'ail, c'est pas Stéphano du tout.
Mais
ça,
non, donc, puisque c'est... la spécialité culinaire de Saint-Étienne, c'est le chômage, c'est ça hein?
Non. C'est un râpé avec du sarrasin.
Ah, bon, oui, ça va. Bon, de toute façon, le thème de la pièce, c'est l'amitié.
Ouais. Hein, entre un bravounet et un coureur.
Non, mais Juliette, on n'a pas les sous-titres à la radio, donc...
Bon, d'accord. Entre un coureur de jupons et un brave gars bien rangé. Bien
voilà, merci. Voilà. Alors, le thème, c'est l'amitié et aussi le droit à mourir dans la dignité.
Bouffer les barabères par la racine, derrière la dignité. Non, parce que chez nous, les pissenlits, eh ben, c'est des barabères.
Ah, ouais, et le mot dignité, vous l'avez pas dans votre langue. C'est marrant parce que je suis pas étonné.
Attendez, non, mais concentrez-vous là, 2 minutes. Ce qui est important ici, c'est le lien entre le rire et la mort.
Voilà, c'est rip. Et MDR. Voilà.
Et alors, rire en stéphanois.
Non, Juju. Non, ouais, non, on arrête avec les langues régionales, 2 minutes.
Oui, enfin, toi, tu sais pas dire 8 en français correctement.
Non, donc, mais bon, attends, sérieusement, dire... non, oui, mais déjà, non. Est-ce que c'est une preuve d'amitié d'aider quelqu'un à partir?
Si c'est déjà. Partir de cette conversation, oui, s'il te plaît, Charline, si t'es mon ami, laisse-moi partir, là, j'en ai marre.
Ben, nous, les stéphanois, on n'a pas peur de la mort.
Non, mais c'est pas la question, là, Juliette.
Non, mais on est comme ça dans ma région. Parfois, on aime bien répondre à côté des questions.
Mais elle est pénible, en fait, là.
Non, mais tu sais, Guillaume, le poids de l'amitié, on le ressent souvent lorsqu'on perd un ami, mais parfois aussi lorsqu'il est bien présent.
Oui, bah si ça continue, c'est moi qui vais finir par aller nourrir les vers parce que
les
là,
vers j'en peux... qui sait les plus forts hein évidemment c'est
oh
les
là
vers.
Là non, là
non,
là
Guillaume,
là,
retiens-moi ou je la tue.
Je
la
tue. Ah non, je te retiens pas.
Les plus forts, bien sûr, c'est la France Inter. Bonjour.
Non, c'est pas Jupiter.
Oui, ça marche aussi. Bienvenue au sein de la branche armée du rire. Et le proverbe du jour, qui veut voyager loin?
Je vais le refaire.
Non, garde-la comme ça, elle est bien.
C'est un mélange de voyager et de aller loin.
Oui, c'est ça, c'est joli.
Voyager aller.
Qui veut voyager loin? Attends la baisse des prix à la pompe. Voici le sommaire. Le droit à mourir dans la dignité devrait être abordé pendant la campagne présidentielle par Anne Hidalgo et Yannick Jadot, mais aussi peut-être par Emmanuel Macron. C'est ce qu'a confié Lynn Renaud vendredi à la télé, car elle est un petit peu la lobbyiste sur le sujet auprès de l'Élysée. En attendant, l'Autriche s'apprête à autoriser le suicide assisté. Donc si l'un de vos proches part en vacances en Autriche, soignez votre au revoir.
Bon, je vais te laisser. Allez, bonne journée. Enfin... bonne nuit. Enfin non, c'est pas ce que je voulais dire.
Quand des joueuses de foot posent en maillot mais sans short, c'est pas pour faire vendre des calendriers, c'est pour dénoncer la fédération qui ne leur offre que la moitié de leur tenue. Ce qui n'arrive pas aux joueurs. Et c'est vrai qu'au vu du match d'hier, au MOL, le foot masculin c'est quand même plus sérieux, plus digne, plus...
Balayette manchette, il en est aussi question avec ce sujet, car Vladimir Poutine muselait déjà l'opposition et la presse indépendante. À présent, il surveille de très très près les humoristes qui pratiquent leur art dans les bars moscovites devant un public en mal de voix critique. Et ce public et ces humoristes prennent tous les risques, car peut-on rire avec Poutine?
Toutes les blagues sont mauvaises. J'arrive pas à me rappeler d'une blague qui m'ait fait rire. Jamais, pas une.
Ok, très bien. Ça tombe bien. Mais écoutez, aujourd'hui, voici Juliette Arnaud.
Oui, et en l'honneur de nos invités, Charline, voici les 3 ingrédients des pâtes à l'ail. Avec d'abord, bien sûr, les pâtes, qui viennent d'un mot latin pasta, mais qui devrait venir d'un mot chinois, donc cosmopolite. Les pâtes, plat de pauvres comme de riches, donc sans esprit de classe, bref, universel, comme toute la musique qu'il aime. Chewbacca.
Oui, alors aujourd'hui on va parler de musique nippone, pâte un peu, ouais.
Ah bah si, on y est un peu.
Ah bah si, pâte, un peu wamono.
Ça marche. Dans les pâtes à l'ail, il y a évidemment l'ail, ce truc miraculeux qui relève même le plat le plus insipide. Et c'est ce qu'il est, sauf que c'est pas si facile à digérer. Et derrière, tu te trimbales une haleine de poney. Est-ce que tout le monde a bien le parallèle?
Ah oui.
Bonjour Guillaume Meurice.
Oui, je me reconnais bien dans cette description. Bonjour à toutes et à tous. Alors pour plaire à nos invités justement, je vais vous parler de Vincent Bolloré aujourd'hui. Je suis allé voir ce qu'en pensaient les gens dans la rue.
Oui, là-dessus, il ne déplaît pas à Zemmour.
Ah oui, bah oui, parce que l'un ne va pas sans l'autre. C'est un petit peu les Laurel et Hardy version Pétain.
Et enfin, il reste l'huile d'olive, cet ingrédient sur lequel on ne peut cuisiner aucune recette de pâte valable. Et on attend de lui, et surtout de son humour, qu'il lubrifie un poil notre rapport au monde. Bonjour Thomas VDB.
Bonjour les amis, je vais bien vous lubrifier tout ça. Alors moi, aujourd'hui, je ne vais pas parler d'actualité, je vais vous parler d'un truc très personnel que j'ai découvert sur moi et sur ma famille. Et je vais vous le dire, et asseyez-vous parce que je vais vous dire un truc de ouf.
Ah, on a hâte, on a hâte. Mais il manque un ingrédient, Juliette.
Eh oui, voici ceux qui viennent mettre leur grain de sel. Il faut du sel.
Ah, c'est bon.
Eh oui, dans l'actualité, je vous laisse nous annoncer qui vous êtes, l'un après l'autre. Vous êtes...
Alors, je suis Bruno Gassiot.
Et moi, je suis Philippe Giangreco.
France Inter.
Sans accent.
Juliette Arnaud.
Par Jupiter.
Bienvenue Bruno Gassiot et Philippe Giangreco. Vous êtes tous les deux auteurs, scénaristes et comédiens. Vous jouez en ce moment au Café de la Gare, une pièce que vous avez coécrite et qui s'intitule Les pâtes à l'ail. Et comme le titre l'indique, il s'agit d'euthanasie. Et d'amitié.
Dit comme ça, c'est bien.
On va y venir.
Ça donne envie d'y aller. Ça fait un bon raccourci.
Vous êtes amis depuis quoi? 40 ans?
62 ans.
Oh, ouais. Enfin, depuis des décennies, on va dire.
Bah ouais,
ouais, vous êtes connus minots. Ouais,
oui,
tous
parce
les
que
deux.
Ma mère le gardait, il avait 5 mois et moi 3.
Ah, c'est vrai?
Ouais,
ah,
non, voilà,
donc
vraiment. Ouais.
Donc tous les deux de Saint-Étienne, amis
complètement.
De la naissance. Quoi. Et vos personnages, Carlo et Vincent, aussi, ils sont amis de très 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 longue date. Sauf que l'un va demander à l'autre de l'aider à mourir parce qu'il se sait condamné.
La question de base d'une amitié solide, enfin quand on est jeune et un petit peu couillon, c'est si je tuais quelqu'un, est-ce que tu m'aiderais à cacher le corps? Comment est-ce qu'on passe de cette question à seras-tu là pour m'aider moi à mourir?
Avec l'âge. C'est-à-dire qu'il y a des préoccupations qui changent à un moment. Quand on a 15, 16 ans, on a tout un tas
on
de
a
préoccupations.
Moins, ouais, ouais.
Voilà, on pense pas vraiment à ça. Et quand Philippe m'a dit en 2018, quand on s'est fait virer tous les deux, lui par Lagardère, moi par Bolloré, on a tout fait ensemble sauf jouer, viens on joue. On s'est demandé ce qu'on allait jouer. Jouer quoi, en fait? Et quand on se voyait pour parler, pour discuter de ces thèmes, eh ben on parle de nos genoux qui sifflent, j'ai mal au dos, tiens j'ai mal à la tête. Et en fait c'est des préoccupations d'âge. Et puis un jour on s'est dit, effectivement on mange des pâtes à l'ail une fois par mois. Imaginons que ce soir-là il y en a un des deux qui annonce à l'autre, ben voilà, moi c'est pour moi c'est fini, j'en ai pour 4 et 6 mois. Est-ce que tu pourrais m'aider à ne pas vivre la déchéance? Et c'est jusqu'où on peut aller par amitié? Est-ce que c'est aussi simple que ça de dire oui? Ou est-ce que on trouve tout un tas de subterfuges pour pas le faire et pour redonner à l'autre l'envie de se battre en sachant que l'autre sait qu'on est en train de lui mentir? Et quand on se connaît bien et qu'on a une amitié profonde, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une amitié feinte, on se connaît par cœur, on sait exactement sur quel bouton appuyer pour énerver l'autre. Et vous ici, vous le faites tout le temps, vous savez sur quel bouton appuyer.
Voilà. Voilà le principe.
Et donc quand tu appuies sur le bon bouton, à un moment, tu sais que l'autre va grimper au plafond. Mais il va te dire, ouais, mais je vois bien que t'as appuyé sur le bouton. Tu dis, oui, ben oui, je l'ai fait. Ouais. Mais c'est vrai.
C'est donc
et le doute s'installe et ça permet de faire des situations de comédie avec un truc atroce.
Oui. C'est donc une pièce aussi sur l'amitié masculine et inspirée de votre amitié à vous, Philippe Giangreco. Qu'est-ce que ça raconte? Parce que nous, les filles, on se demande toujours qu'est-ce qui se raconte les mecs qui sont amis depuis très très longtemps.
Oui, alors c'est vrai, c'est très curieux parce qu'en fait, Bruno et moi, on est très amis, mais on est très pudiques. On se parle rarement.
Ah bon, vous êtes des hommes et vous êtes pudiques?
Oui, en fait. Alors... Par exemple,
là, je viens d'appuyer, par exemple.
Par exemple, on ne s'est jamais raconté des détails comme peuvent raconter les filles lorsqu'elles rencontrent un mec le lendemain où elles parlent de tout, de la taille, comment ça s'est passé. Nous, jamais on est rentré dans cette discussion. On pouvait se dire, voilà, j'ai rencontré quelqu'un, elle était vachement belle et tout, mais on n'approfondissait pas.
On est plus élégant, quoi, c'est ça que vous voulez dire.
Je sais pas, mais c'est, ça s'appelle la pudeur parce qu'on peut être aussi très vulgaire, mais là, on est pudique et en fait, lorsqu'on a commencé à travailler sur ce spectacle-là, c'était surtout au début, moi j'avais trouvé le titre, Les pâtes à l'ail, je voulais qu'on joue des chansons italiennes. Mais on s'est dit très très vite, ça marche.
Alors on a regardé,
et finalement il m'a dit, mais peut-être ça aurait bien marché. Et on a commencé à travailler.
On en chante une.
Et on en chante une quand même. On a commencé à travailler, mais en fait, on ne se disait rien. Donc à un moment, Bruno, il m'a dit, bon, on arrête de se voir. Enfin, c'est très bien, rebouffons des pattes, mais on ne parle plus de spectacle. Et on a fait intervenir Jean-Carol Larrivé, qui est notre metteur en scène et co-auteur, qui nous a enlevé cette pudeur.
Ah.
Et lui, il nous a fait rentrer dans les choses. Je pense qu'on ce qu'on se dit dans la pièce, on se l'est rarement dit dans la vie.
Et vous ne vous le direz jamais, c'est sûr.
Ouais, mais on n'a pas besoin, en fait.
Non,
parce que Bruno, moi, je ne le vois pas pendant 5 ans, je le revois au bout de 5 ans, c'est comme s'il avait quitté la veille. Il n'y a pas d'histoire, on se dit, ouais, qu'est-ce que c'est, tu ne me vois plus. Non.
Mais Philippe, vous avez fait pas mal de scènes, ce qui n'est pas le cas de Bruno. Moi, je me souviens de Bruno me disant, il y a un certain nombre de décennies également, qu'il avait arrêté de faire l'acteur au moment où il se rendait compte, et je vous cite,
Bruno Gassiot,
au petit théâtre de Bouvard, parce que vous aviez l'impression d'être transparent comme acteur.
J'imprimais pas, ouais. J'imprime pas l'écran.
Voilà, alors qu'est-ce que... Pourquoi, Philippe, vous vous êtes dit, ça y est, maintenant, il est plus transparent?
Non, alors déjà, moi, j'ai donc eu, j'ai des cafés-théâtres et des théâtres à Lyon, et j'ai un associé, et partout où on allait, mon associé, on le reconnaissait, moi, jamais. Moi, je disais, je fais partie de l'accessoire, ouais, c'est ça. Donc, moi, non plus, on m'intrompe pas. Non, mais je suis allé voir Bruno, parce que je lui ai dit, écoute, on a tout fait ensemble, enfin, presque, et je lui ai dit, il faudrait qu'on joue. Ce serait sympa qu'on se retrouve sur scène. Au début, il m'a dit non, et puis après, ça l'a titillé, mais, parce que je me suis dit, c'est quand même, c'est chouette de faire ça parce que ça, d'abord on adore le faire ensemble et que ça nous rapproche. Et puis très franchement, au tout début, on voulait beaucoup tourner en fait dans les pays étrangers, aller dans les alliances françaises.
On voulait se couler douce.
On voulait pas aller à Paris. En fait, on cherchait à rien foutre et puis on s'est dit c'est un bon moyen. Mais le spectacle nous a très vite.
Non, mais surtout, il y a aucun enjeu. Il y avait aucun enjeu. C'est pas à notre âge qu'on va devenir jeune premier.
Si.
On va pas attaquer une carrière. Bah,
on va laisser le public juge. En tout cas, c'est au Café de la Gare, les vendredis et samedis à 21h. Ça s'appelle les pâtes à l'ail. Et ça fait beaucoup de bien. Quand nous sommes allés vous voir avec Juliette, il y a notamment une dame qui avait dans son entourage quelqu'un qui était très malade et qui vous est presque tombé dans les bras en disant ça m'a fait un bien fou de vous voir. Et c'est vrai que c'est une comédie sur le droit à mourir dans la dignité. On va y revenir tout à l'heure. Oui, c'est un sujet qu'on va approfondir, car dans cette émission, on approfondit le droit à mourir dans la dignité. Nos meilleures blagues d'euthanasie, dans quelques minutes, restez cool. Something evolving, whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me, it seems quite clear. That it's all just a little bit of history repeating. The newspapers shout, a new style is growing, but it don't know if it's coming or. C'est Shirley Bassey, History Repeating sur France Inter. History Repeating, oui, parce qu'il est déjà venu dans l'émission, Bruno Gassiot, vous vous dites, alors qu'on n'invite qu'une seule fois les gens, c'est vrai. Mais il parraine l'émission. Il a accepté d'être le tout premier invité il y a 7 ans et demi. Alors, il a le droit de revenir, non?
Alors que personne ne voulait venir à l'époque.
C'est vrai, mais voilà. Il était le seul, c'est vrai. Merci, Juliette, pour les entourer.
Eh bien, Bruno est venu avec son ami, aussi des amis. Thomas VDB, Djoubaka, et puis l'autre, là, qui est
Philippe Gian Greco, aussi, avec Bruno Gassiot. Voici l'information.
C'est ça, tout le vice premier de cette cancel culture, c'est d'être anachronique. Anachronique. Quand on reproche à Colbert le code noir, en réalité, c'est un anachronisme.
Le journal de presque 17h17.
Tu as de l'humour, c'est grave.
Et marrante cette fille. Hein, ouais, c'est rare de trouver une fille avec tant d'esprit.
C'est vrai.
Et on commence par les titres.
Oui, dans ce journal, on parlera
de la délinquance, de l'insécurité partout en France qui ronge.
Okay. Vous avez regardé le débat LR sur CNews
comment
hier.
Vous savez ça?
Bon, j'ai deviné. Alors, on parlera aussi
des Arabes. Des Arabes, oui. Comment garantir la sécurité des Français alors qu'il y a des Arabes?
On a compris, Guillaume.
Mais j'ai tellement aimé, j'ai regardé deux fois le débat.
Bon, c'est ça. Et enfin, on parlera d'alcool.
Ah bah, vous avez regardé le débat LR sur CNews aussi alors?
On ne peut rien vous cacher.
Ah, voilà, d'accord. Je comprends. Et on commence par la politique.
Oui, plus de 600 élus locaux lancent un appel à soutenir Emmanuel Macron.
0,11%.
Oui, alors c'est quoi ça?
Eh bien, il y a environ 510 000 élus locaux en France, donc 600 sur 510 000, ça fait 0,11%.
Ah, mais vous aimez bien les votes, vous, c'est nouveau.
Ouais, des fois j'aime bien. Là, j'aimais bien. Là, je trouve ça relativiste. C'est pas mal, c'est bien.
Yannick Jadot, lui, a déclaré qu'il espérait un rassemblement de la gauche.
Oh, c'est beau, ça, c'est beau. Mmh. Surprenant de la part de Yannick Jadot, mais c'est magnifique.
Attendez, c'est parce que j'avais pas terminé. Yannick Jadot a déclaré qu'il espérait un rassemblement de la gauche derrière lui.
Ah oui, je me disais, d'accord, là, on reconnaît mieux Yannick. Voilà, ah, c'est notre Yannick sûr. Voilà.
Et il a ajouté, je cite, je dis aux socialistes, rejoignez-nous.
Oh là là, vous imaginez si tous les socialistes y rejoignent Yannick Jadot, cette folie, ce serait vraiment dingue. Il serait 1, 2, 3, 4.
Non, vous n'avez pas tous les comptés non plus.
Non, c'est, j'avais fini, j'ai compté 4.
Ah, ben voilà, c'est ça. Alors, présidentielle toujours. Anne Hidalgo ne sait plus si Jean-Luc Mélenchon est vraiment de gauche.
Attendez, Anne Hidalgo, c'est celle qui fait des standing ovations au préfet Didier Lallemand?
Oui.
Oui, en fait, c'est juste qu'elle ne sait pas ce qu'est la gauche, en fait, tout simplement, c'est tout.
Bon, politique
oui,
encore.
Oui, voilà, réaction
aux émeutes en Guadeloupe, Aurore Berger a déclaré la négociation ne peut pas exister dans le chaos.
Et la seule vraie question qui se pose, c'est qui ?
Qui de quoi ?
qui a eu l'idée de demander son avis à Aurore Berger sur la Guadeloupe ?
Surtout, qui a eu l'idée de demander l'avis d'Aurore Berger tout court ?
Qui sont ces gens, au final, on ne sait pas.
Et ce matin, le polémiste toujours pas candidat, Éric Zemmour, a été invité.
Sur CNews, oui.
Non, il était invité.
Sur Europe 1.
Il était invité sur un blog
d'extrême droite, ouais, c'est normal pour Zemmour.
Il était invité sur France Info, le service public. Voilà, vous n'étiez pas au courant ?
Non. Alors là, j'étais pas au courant parce que j'ai déménagé, Charline. Je vis dans un autre pays.
Ah bon, dans quel pays ?
Le déni. Ouais. C'est un pays formidable.
Et ben, je vais vous rejoindre immédiatement.
Oui, j'ai un passeport pour vous.
Ce week-end, lors du congrès LR, Xavier Bertrand a fustigé ceux qui pensent qu'on peut s'en sortir sans travailler et veut revenir au travailler plus pour gagner plus.
Oui, donc en gros, il a piqué le programme de Sarkozy.
Oui.
Donc il n'a pas travaillé.
Non.
Donc il ne va pas s'en sortir.
Bah non.
Bah voilà, donc on peut passer à la suite.
Très bien. Gérald Darmanin s'est réjoui de la fermeté de la France en matière migratoire en mettant en avant que nous avons notamment 15 000 demandes d'asile en moins que l'Allemagne.
Bah alors, c'est qui les plus racistes? C'est nous.
Calmez-vous.
Pour une fois qu'on est plus fort que les autres, on a un truc. En plus, d'habitude, ils sont forts en racisme, les Allemands. C'est leur truc. Ah, historiquement, quand même, c'est malaise.
Science à présent, des chercheurs ont montré que les gens aime boire un coup en fumant une cigarette parce que la nicotine affaiblit l'effet de la fatigue induit par l'alcool en stimulant la zone du cerveau qui contrôle le sommeil.
Ah, c'est une phrase bien longue pour nous raconter le week-end de Thomas VDB.
Merci Guillaume Meurice. Voilà, nous sommes en compagnie de Bruno Gassiot et Philippe Giangreco. On va aborder ce premier thème qui a trait à votre pièce de théâtre, Les pâtes à l'ail. L'Autriche s'apprête à autoriser le suicide assisté, comme en Suisse. L'Espagne et la Belgique ont dépénalisé l'euthanasie. Reste le pays des droits de l'homme. Alors que les Français semblent prêts, ce sont les politiques qui ne le sont pas, ce qui pousse certains de nos concitoyens à aller mourir ailleurs. Hein, selon l'adage, partir c'est mourir un peu et partir en Suisse c'est mourir beaucoup.
Contrairement à la France où l'on refuse toujours tout débat sur l'euthanasie, les Grolandais ne sont pas obligés de quitter leur pays pour bénéficier du suicide assisté. Il suffit pour cela que le malade se rende devant le commissariat le plus proche où il sera pris en charge immédiatement et sans frais avec l'efficacité proverbiale du service public grolandais.
Ah, c'est bon, appelle la morgue.
Oui, c'est Groland, ils sont toujours sur Canal+. Donc il y a une déclaration de Lynn Renault qui relance un petit peu le débat, où elle a dit à la télévision que le droit à mourir de la dignité serait certainement présent dans le programme d'Emmanuel Macron, futur candidat, peut-être, on ne sait pas. Il y a aussi l'Autriche qui va autoriser le suicide assisté. Voilà pour l'ancrage actualité. Alors, vous deux, est-ce que c'est votre combat? Il y en a les deux ou l'un des deux fait partie de l'association pour le droit à mourir dans la dignité.
Je suis membre d'honneur.
Qu'est-ce qui vous a amené
pas tête de vanter non plus.
Qu'est-ce qui vous a amené à vous engager dans ce combat?
Pour moi, la liberté, je la place au-dessus de tout. Et pour moi, la liberté d'éteindre la lumière au moment où on le souhaite est la dernière et l'ultime liberté d'un humain qui peut dire. Voilà, je suis arrivé à un stade où, le plus tard possible évidemment, je ne peux plus rien faire. Je cherche, moi, à éteindre la lumière. Et il n'y a pas de droit en face de la liberté. En face de la liberté, il y a des lois. Et la liberté répond à des lois. Les gens qui veulent mettre un droit face à la liberté, en disant, il faut que... Ah, vous êtes libre, mais il y a des choses. Cela, c'est des fachos à un moment ou à un autre.
Ah, tout de suite. On a atteint le point facho. Ouais,
7h29. Je vais assez vite. J'ai peu de temps.
J'aurais dit nazi, moi, mais...
Je viens plus à la radio, je fais plus de télé, j'ai peu de temps, donc je prends des raccourcis.
Je comprends.
Et aujourd'hui, la discussion n'a pas vraiment lieu. Il y a les lois Leonetti qui... comment on appelle ça, anticipé, là, j'ai le cerveau embrumé.
Qui pose les premières bases, mais qui
pose les premières bases, mais on peut débrancher, c'est-à-dire que quelqu'un meurt de faim et de soif. Par contre, envoyer le pentobarbital de sodium, non, ça, alors que ça prend quelques secondes. Donc l'idée que la liberté est au-dessus de tout, chez moi, est une chose très importante. Donc,
dans la vie, Philippe Giangreco et Bruno Gassio, dans la vie, vous avez fait le même pacte que dans la pièce, si ça arrive
Cas, on s'est posé la question, parce que lorsqu'on aborde ce thème-là, comme la maladie, il faut quand même savoir un peu ce qu'on ressent, et oui, c'est quelque chose dont on s'est parlé, et moi je trouve que c'est quand même plus rigolo de si jamais on doit vraiment mourir, qu'on le fasse.
Il y a un moment où voudra.
Avec des gens autour de soi, qui sont des amis, parce que moi, je suis vrai, la déchéance, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas. Et du coup, je me dis, voilà, si on sait à peu près qu'on a 3 mois à vivre et que ça va être de la souffrance, de faire une dernière petite fête avec des potes.
Voilà. Pour que ce soit rigolo, c'est un petit peu l'esprit qu'il y a dans votre pièce. C'est-à-dire que face à la mort, on peut rire aussi. Et même, ça accentue le rire de savoir qu'on va mourir.
Oui, j'ai l'impression. La mort fait beaucoup rire.
Et bon, on partira en musique. Est-ce que ce sera une musique choisie par Chewbacca? Je ne sais pas.
Attention, Japanese tone.
Et voilà, c'est parti. Donc parlons bien, parlons nippon. Aujourd'hui, il y a une chose assez rigolote. Vous savez, dans le métier que je fais, c'est quand même de faire découvrir à quelqu'un qui écoute de la musique à la chaîne un truc qu'il connaît pas. C'est-à-dire un genre musical dont il ignorait jusqu'à l'existence. Et aujourd'hui, franchement, il y a des spécialistes du tout. Moi, j'ai un pote qui est spécialiste imbattable sur le death metal inuit. Et il m'est arrivé de rencontrer récemment, c'est très fort comme scène. Il m'est arrivé de rencontrer récemment un compilateur de vraie musique d'ascenseur. C'est-à-dire celle qu'on écoutait aux États-Unis et dans une partie de l'Asie au siècle dernier, entre le premier et le 15e étage d'une tour. Donc cette pratique, heureusement, a disparu parce que cette intrusion musicale pouvait quand même mettre les nerfs à rude épreuve, surtout si on était coincé dans le monde charge entre deux paliers. Bon, alors comme j'écoute des 78 tours tous les deux jours, je ne me mets pas dans une bande extérieure, qui suis-je pour juger. Voilà, alors ce qui est assez étonnant, c'est tous les territoires qui nous restent quand même à défricher. Et je dois dire que là, j'en ai eu pour mon steak, un label français au doux nom de 180 grammes, c'est-à-dire le poids d'un vinyle, pas d'un morceau de barbac, donc 180 grammes ont édité en 3 vinyles la crème d'un rare groove japonais, du funky, sushi et consorts. Alors je peux vous dire que pour en arriver là, faut pas avoir les bras en gelée. Il faut que vous imaginiez quand même que le marché du disque japonais est autosuffisant, c'est-à-dire que nous, ils en ont rien à foutre. Ils n'ont pas besoin de nous pour exister. La satisfaction de l'ego se fait intra-archipel. Alors ce qui fait que beaucoup de mouvements musicaux en fait japonais, on n'en a jamais entendu parler. Je pense pas que le city pop, c'est-à-dire le funk synthétique des années 80, soit arrivé jusqu'à vos platines. Si oui, vous me direz, parce que moi ça m'intéresse. Donc le label 180 grammes, lui, a décidé entre autres de défendre le Wamono, c'est-à-dire la fine fleur du groove nippon des années 60-70. On a deux Zig français qui connaissent bien le Japon. Ils y ont vécu, ils ont fait des allers-retours. Et quand les DJ ont envahi le monde, il s'est développé dans cette famille, en fait, une spécificité, c'est de jouer la perle rare, le rare groove. Donc, il y a presque 5 ans, du côté de Nantes, Greg et Max, nos deux gars qui vont souvent au Japon, décident de mettre un coup de projecteur sur la scène musicale underground japonaise d'hier et d'aujourd'hui. Et dans ce genre d'histoire, pour arriver à ses fins, faut vraiment tirer le fil de la pelote de laine. Donc, Max, je reprends les prénoms parce que sinon, avec les noms, vous comprenez rien. C'est des idées, je ferai comme ça. Donc, Max, écoute régulièrement les mixtapes d'un DJ tokoïde qui s'appelle Yoshisawa Dynamite. Bah, c'est un spécialiste du Wamono. Par un concours de circonstances extrêmement incroyable, il rencontre Dynamite dans un bar, le Baobab, à Tokyo. Il essayait de le joindre sans succès, mais depuis plusieurs années quasiment, et là, hop, il le trouve dans un bar parce que le tenancier du bar, eh ben, Dynamite, c'est son meilleur pote. Donc voilà, ils se rencontrent et ils décident quand même de faire des compilations ensemble. Dynamite, il a la cinquantaine bien tassée, il mixe que du 45 tours, et c'est une encyclopédie vivante du Wamono, dont l'idéogramme signifie, on va dire, chose japonaise. Autrement dit, spécificité locale. Donc nos deux Frenchies, ils vont réussir à décider tout joliment de faire des compilations sur leur label nantais, c'est déjà pas mal. Mais ce qui est très chouette dans le Wamono, c'est quand les instruments traditionnels comme le koto, une grosse sitar allongée dont on passe les cordes, ou le shakuhachi, c'est-à-dire la flûte japonaise, font la fête avec une grosse guitare funky. Et puis dans le catalogue de 180 grammes, il y a aussi la nouvelle scène, parce que sinon c'est pas marrant. Alors il y a un groupe qui s'appelle Ajate, qui se joue aussi des genres en mélangeant instruments tradis nippons et afro-funk, qui te fait pousser les meubles. Il y a dans Ajate une capacité vraiment d'équilibre et de synthèse, et pour ce projet, le créateur du groupe, qui s'appelle Junichiro Iyameda, a construit son propre xylophone, mais il a construit plein d'autres instruments aussi un peu zarbi, en s'inspirant autant de la sonorité africaine que celle de l'archipel. Bref, en gros, hein, c'est toujours bien d'aller farfouiller quelque part. Le dernier disque était passé un peu à l'as pour cause de pandémoche, et donc on fait une piqûre de rappel et on écoute Ajate dans Uka.
Uka, 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 uka.
Bon, bah, je répète pour ceux qui n'ont pas compris, donc ça s'appelle Adjaté. Et le titre, c'est Ouka.
Ah, waouh, merci magnifique. Beaucoup, c'est Djoubaka.
C'est génial, franchement. Ah, bah, voilà. Ouais. Bon, j'adore. En fait, c'est plus agréable à écouter qu'en entendre parler, en fait. Ah, c'est gentil. Non, mais t'as mis vachement longtemps à nous faire écouter un truc super bien, c'est dommage.
Ah, bah, oui, alors...
J'aurais préféré en écouter plus.
Vous voulez qu'il ferme sa gueule, quoi, ouais, en fait.
Non, mais je demandais où il allait, mais c'est vachement bien, c'est super bien.
C'est parce qu'il raconte des histoires, il y a des histoires derrière les titres qui sont incroyables.
Bah, j'étais à deux doigts de l'euthanasie à la fin du discours, toi, mais là, maintenant, ça y est, je suis remonté.
C'est gentil, tout en gentil.
Ah, bah, non, dites donc.
Non, c'est vachement bien.
Je suis content d'être venu.
On est avec vous, Djoubaka, vous inquiétez pas.
Oh bah non.
C'est pas grave, vous n'irez pas voir, vous, les pâtes à l'ail avec Bruno Gassio et Philippe Giangreco au café.
J'aime mieux manger des pâtes à l'ail.
Ne venez surtout pas, bah c'est l'endroit pas. Est désert, c'est sale et tout.
Ouais,
pas.
Bah, je me doute, c'est le café de la guerre, c'est pour vous dire.
Mais non, c'est pas ça.
Si, il y joue aussi, tiens, ouais, lui. Vous, alors, vous, c'est donc le vendredi et le samedi 21h. Et Guillaume Meurice, lui, c'est le mardi à 21h.
C'est vrai.
Mais l'après-midi, vous êtes avec nous, donc on
bien
en profite.
Bien sûr. Mais je vais vous parler aujourd'hui d'un grand homme qui va avoir un grand rôle dans la campagne présidentielle, mais qui sera invité nulle part, Vincent Bolloré. Vous connaissez, ça vous dit quelque chose, Bruno, Vincent Bolloré, votre
j'ai entendu
boss.
Parler, j'ai
posez
entendu
ce parler. Couteau à huître tout doucement sur le sol, ça va bien se passer. C'est un gars super, toujours prêt à défendre l'humour. Il a été auteur pour les Guignols de l'info, comme vous, hein, sur les dernières années. Toujours avec le sens du rythme. Il coupait beaucoup dans les textes, parce que la comédie, c'est du rythme, hein, ça il le sait très bien. C'est un homme qui s'est fait tout seul, puisqu'il a pris très tôt la décision de naître au bon endroit. Dans une famille de riches industriels, d'aristocrates. Vous voyez, il a vraiment le sens de l'anticipation. Il vient pas d'une famille pauvre de Saint-Étienne. Désolé, les amis, j'ai rien contre le tiers-monde. Non, mais c'est vrai, je donne à l'UNICEF, mais il y a des limites. Vincent Bolloré, c'est également un homme qui est aimé par le peuple de France. Ça, c'est le plus important. Et je le sais, parce que je suis allé le voir ce matin, le peuple. On commence avec un monsieur qui a quoi ?
Des actions Bolloré.
Vous avez des actions Bolloré ?
Oui.
Et alors, est-ce que c'est un bon investissement ?
Ben, ça a été, mais bon, pour le moment, ça monte pas encore beaucoup. Hein. Voilà, ça a eu monté, mais ça monte plus.
Ah ouais, ça, c'est le problème de la bourse. Hein. Ça monte, ça descend, hein, tout comme les érections de Bolloré devant le CAC 40 et celle de Dominique Seux devant celle de Bolloré devant le CAC 40. En attendant, Vincent, il est quand même dans le classement des milliardaires français. Enfin, ça, qu'est-ce que vous voulez. Hein. Bon,
c'est comme ça. Hein.
Ouais, est-ce que c'est pas dangereux pour la démocratie ?
Ben, on peut rien y faire, hein. Tant mieux pour eux. Hein. Moi, je suis pas jaloux. Hein. Il y a des gens, ils sont jaloux, les riches. Il y a des riches et puis des pauvres, puis voilà. C'est la diversité.
C'est la diversité, voilà. C'est ça, il faut de tout. C'est la richesse d'un pays. Ce serait triste, un pays où chacun mange à sa faim ou dort dans des lits. On serait tous pareils comme des cons, voilà, ce serait triste. Le métro parisien sans les reprises de Dalida en roumain. Voilà, il ferait quoi, Djoubaka ? Ben, il n'y aurait plus de chronique, quasiment, voilà. Et Bolloré, il est très vigilant à protéger les pauvres de tout pays, y compris et surtout en exploitant l'Afrique, bien sûr.
Ce qu'il fait en Afrique, etc., c'est le problème des Africains aussi, s'il fait des preuves. Enfin, moi, j'aime autant que ce soit Bolloré que les Chinois.
Ouais.
Tant qu'à faire. Parce qu'il est de chez nous.
C'est un petit gars de chez nous. C'est un gars de chez nous. C'est un petit gars du terroir, des territoires. C'est pas un Chinois. On sent qu'il est français, Bolloré. Pourquoi ? Parce que c'est un mec qui a le sens de la solidarité. Nous, on lui doit beaucoup. Depuis qu'il a la main sur Europe 1, il nous a filé des centaines de milliers d'auditeurs. Et ça, non, mais ça, merci, Vince, merci. C'est aussi un gars, voilà, comme ça. Un gars qui a la tête de CNews, évidemment. Il aime bien les médias. Les gens aiment ça, hein, de toute façon.
Moi, je trouve ça très bien, CNews, oui.
Qu'est-ce qui vous plaît sur CNews, alors parlons de sa chaîne de télé ?
Et qu'est-ce qui me plaît sur CNews ? C'est des émissions qui sont relativement calmes, où les gens se respectent les uns les autres.
Sur CNews, c'est calme ? Oui, si, c'est la caractéristique des émissions de CNews. Hein. Bon, alors, sauf si vous dites France Inter. Ah, là, ça part tous, ils se mettent à lancer la tectonique. Et si vous dites immigration, femme voilée, bon, là, voilà, il y a fracture ouverte, tibia, péroné, cortex. Faut faire gaffe. Mais sinon, c'est calme. D'ailleurs, posons la question, est-ce qu'ils ne parlent pas toujours des mêmes sujets ?
Sur CNews ?
Ouais.
Je trouve pas, enfin peut-être, mais enfin, on sent que chacun respecte les opinions de l'autre.
Est-ce que c'est pas parce qu'ils ont les mêmes ?
Pas toujours, non.
C'est vrai, l'autre jour, ils se sont engueulés parce que Jean-Claude Dacier, il soutenait que les langoustes flambées au cognac, c'était meilleur que les blinis au caviar. Il y a eu bagarre. Alors, c'est autre chose que vos pâtes à l'ail et vos merguez de gauchias. Hein. Oh. Voilà, beurrette, voilà, le CNews de Bolloré. On peut dire que c'est une chaîne comment ?
Elle est assez objective. Elle raconte les faits tels qu'ils y sont, sans trop de fleuritures.
Est-ce qu'on est sûr de ça, que c'est une chaîne objective ?
Non, mais ça donne l'impression.
On a l'impression que c'est objectif.
Oui, c'est leur opinion, le tout c'est de l'accepter.
Oui, mais alors est-ce qu'on peut parler d'objectivité ?
Ben oui.
Bah oui, c'est de l'objectivité à partir du moment où on accepte que les opinions sont la réalité. En même temps, non mais il faut être honnête, dans les médias, c'est compliqué de trouver des exemples d'objectivité. à part nous. Non, mais c'est vrai. Je rappelle que Vanunaker en flamand, ça veut dire neutralité. Hein, et que Meurice, ça vient de la racine latine Meuricinus, qui veut dire au-delà de tout soupçon, sans parti pris. Voilà. Et c'est de racine européenne. Alors que Zemmour, c'est un nom arabe. Hein, alors que, voilà, Bolloré, il soutient Zemmour. Il est derrière la campagne. C'est pas un problème, ça.
C'est pas contre pour moi. N'importe qui peut être derrière la campagne de n'importe qui. Mais c'est normal qu'ils soient patronnés par quelqu'un. Ils le sont tous, patronnés par des entreprises financières qui les motivent.
Est-ce que Philippe Poutou, il est patronné par une entreprise financière ?
Ah, ça, je ne sais pas. Je ne connais pas les secrets.
Eh bien, moi, je les connais. J'ai des infos. Il est habillé par les petits frères des pauvres, déjà. On le voit très bien. Mais personne n'enquête là-dessus. Pourquoi ? Parce que Poutou, il a des relais puissants. Hein, dans les médias dominants, comme par exemple la Gazette de la Boîte à Gants ou Pula Bouloche Magazine. Voilà. Heureusement donc qu'il existe un contre-discours d'extrême droite et des milliardaires qui s'engagent. Et je vais vous dire, on n'en a pas fini avec. Votre pièce s'appelle Les Pâtes à l'ail, mais ce qu'on va bouffer pendant 6 mois, ce sera plutôt de la sauce bolo.
Merci Guillaume, jolie chute. Bon,
bref, bien sûr, magnifique. Faut aimer les jeux de mots. Hein, c'est sûr.
Allez, à venir, des révélations sur la famille de Thomas VDB, donc restez avec nous. Juliette, vous avez un autre sujet à soumettre à nos invités, Philippe Jean-Gré et Bruno Gassio.
Oui, l'équipe nationale de foot féminine française caracole parmi les plus fortes nations. Pour autant, les joueuses du cercle Paulbert-Bréquigny à Rennes ont fait la photo d'avant-match de Coupe de France sans shorts et sans chaussettes puisque la Fédé ne juge pas utile de les leur fournir. Oui, si le foot féminin monte en puissance, le chemin pour l'égalité est encore long.
Ah, on va demander l'avis de Daniel, hein, ancien joueur professionnel à Chelsea.
Poitiers.
Ouais, Poitiers, ok. On a des doutes ?
Ah, bien sûr qu'on a des doutes. Après, quand on regarde la physionomie de l'équipe, la stratégie, l'effectif, les chaussures, la taille du short, ou 36-38, après, voilà. C'est le football. C'est le football.
Hein, on va demander la composition de l'équipe de France à notre chérie à tous, hein, la gonzesse.
Oui, Sonia. Donc,
alors non, on va plutôt demander la composition de l'équipe de France à Stéphane.
Alors la composition de Laurent Blanc, on l'aura à la mi-temps du match seulement.
Et c'était le palmachot, pas la vraie vie, bien sûr. Philippe Diangrigo, oui, c'est oui. Vous qui nous avez apporté ce sujet.
Ah,
sur...
ah d'accord.
Non. Ah oui.
Non, non, je parlais des filles en fait, qui n'existaient pas trop au foot.
Oui, oui, la montée en puissance
oui,
du foot
qui
féminin.
Sont fait, qui sont braquées, là, je ne sais pas quoi, du coup, on en a parlé dans le monde entier. Il y a eu un enlèvement, enfin, ils ont tapé une fille dans une voiture, là.
Une joueuse du PSG.
On parlait pas beaucoup du foot féminin et là c'est devenu mondial avec cette histoire.
Ah mais si quand même on parle du foot féminin.
Oui mais maintenant avec cette affaire ça a monté et avec celle-ci là vous venez de développer c'est monté encore plus.
Oui mais vous avez pas.
Vous vivez où Philippe le reste de l'année?
Je vis en Sicile.
Un petit endroit sympathique.
Très sympathique, au bord de la mer. Ouais.
Sans problème de sexisme aucun.
Non, pas du tout.
Bah non, bah bien sûr que non, c'est connu pour ça. Donc vous n'avez pas du tout suivi les records d'audience qu'ont fait par exemple les joueuses pour la
Si,
la
bien
coupe
sûr, oui.
Féminine.
Mais moi j'adore en plus, j'adore le football féminin. J'ai une copine qui joue dans l'équipe d'ailleurs. Non, non, je regarde beaucoup, mais je trouvais qu'on... Enfin, c'est devenu plus... large d'un coup avec cette histoire, parce que j'entendais des gens qui ne parlent jamais de foot féminin en parler. Ah. C'est ça que.
Oui, mais ils ne parlaient pas vraiment de foot féminin, c'est ça, ils parlaient de.
Bah,
c'est un
festival. Bah, ils disaient que finalement c'était comme les mecs, quoi, il y avait les mêmes voyous.
Ah oui.
Voilà. Ah, voilà.
C'est une forme de normalisation, ça peut
voilà. Être. Voilà, on va dire que ça ruisselle, ça peut, comme l'argent ne ruisselle pas, là où
mais
moi,
j'ai
ça ruisselle.
Vu ce truc-là sur les filles qui n'ont pas de short, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que la Fédé livre que les maillots, livre la moitié de la tenue.
J'ai pas compris
bah,
la
parce que, bah, parce que, de toute façon, les revendications, dès que ça concerne l'argent, les filles touchent moins d'argent, et notamment, la fédération enfin, s'est dit qu'elles paieraient le reste. Donc, et elles ont. Voilà, et leur moyen de lutter, c'est avant match, ils vont poser juste avec le maillot, le maillot bien, bien bas, en culotte, et pour sans dire que c'est pas juste, quoi. Oui, parce qu'elles n'avaient ni short ni chaussettes.
La télé, c'est bien débile. Ouais. Non, j'ai peur parfois, ça fait longtemps que je m'intéresse plus à l'actu vraiment, mais là je me dis, j'avais peur que ce soit moins absurde. Non, non, ça.
Non, c'est vraiment.
Vous avez de la matière encore pour 1000 ans.
Au moins. Vous, le foot, donc vous venez de Saint-Etienne, donc normalement vous êtes né fin des années 50, donc vous avez dû aller à Geoffroy Guichard relativement tôt et dans les belles
1963,
années.
1963, la première fois, ouais. Oui.
Salut,
feu, mitorage. Kurkovic, voilà, toutes ces premières équipes-là, bien sûr. C'est le, pendant très longtemps, j'allais bien dans ma vie et le seul caillou dans ma chaussure, c'est quand Saint-Étienne perdait. Et si je me disais, tout allait bien, hein, franchement, j'avais un bon job, tout allait bien. Et là, je me disais, ils ont perdu.
Et quand ils perdaient contre Lyon, alors là, c'était pire.
Oui, alors, juste, j'ai une mauvaise nouvelle. Une des meilleures équipes françaises, c'est l'équipe féminine de l'OL, qui a gagné plus de Ligue des Champions. Ah, bah, ça n'a rien à voir, mais je vous le dis.
Non, mais alors là, pour l'équipe féminine lyonnaise, je suis très content parce que c'est vrai, d'abord, elle joue très très bien, mais c'est avec les Lyonnais que j'ai un problème, avec l'équipe de mecs, à cause de Saint-Étienne.
Ah, bah oui.
Mais j'ai pas du tout de mais
ah, avec ça, eux, ça ne s'étend pas jusqu'aux joueuses.
Non, avec les filles, c'est pas du tout. Mais Lyon, je ne supporte pas l'équipe de Lyon, alors que c'est complètement ridicule, c'est complètement con. Hein.
Oh, oui,
je
ne
regarde plus les matchs
toi.
Avec Saint-Étienne, parce que comme ils perdent tout le temps, c'est qu'on
ne les
regarde pas. Mais non, parce qu'ils courent pas le ballon.
Dans cette émission, le jeu aussi, c'est la chronique, et notamment la chronique de Thomas VDB, bien sûr, qu'on attend.
Absolument. Bonjour les amis. Alors moi, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la famille. Parce que la famille, c'est important, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie, avec bon, la patrie, le travail. Mais... Et je vais vous parler de ma famille. Alors c'est une actu un peu perso, mais restez tous, parce que je vous assure que vous ne serez pas déçus. Je suis tout bonnement sur le point de vous lâcher un scoop dans moins de 2 minutes 23, parce que maintenant mes chroniques sont d'une durée très précise. Alors pour comprendre la suite, il faut savoir que moi j'ai une famille très nombreuse. Mon père, il avait 11 frères et sœurs, et son propre père aussi avait 11 frères et sœurs. Donc tout le monde a fait pas mal d'enfants, je pense que ma famille proche doit être responsable du trou d'environ 15% de la sécu, hein, je pense. Vraiment. Et donc j'ai pas des dizaines de cousins, moi j'ai des centaines et des centaines de cousins. J'ai plein de cousins germains que je connais à peine, dont j'ai même jamais vu les enfants. J'ai tellement de cousins partout que statistiquement j'ai forcément au moins un ou deux cousins en ce moment dans la maison de la radio sans le savoir. Mais voilà, ça c'est un truc, je suis habitué. Et là il y a deux jours, j'ai une cousine qui passe chez moi, c'est la numéro 236, je la connais bien. Et elle me dit mais t'es pas dans le groupe WhatsApp famille toi, dis donc. Parce qu'apparemment il y a un groupe WhatsApp qui a été créé pour se tenir au courant entre cousins. Donc je dis non, je suis pas dans le groupe WhatsApp famille. Je sais pas pourquoi je suis pas dedans, c'est pas grave. Et là elle me dit donc t'es pas au courant qui c'est notre cousin. Donc là arrive le moment où de la chronique vous commencez à vous dire bon, à coup je vais débêter, tu nous emmerdes, c'est qui ton cousin? Mais je savoure un peu parce que vraiment je vous jure vous allez être à terre. Et donc j'ai ma cousine, mais c'est qui ce cousin? Et là ma cousine me dit on est cousins avec.
Ah là j'ai peur.
Est-ce que je pourrais avoir un verre d'eau, s'il vous plaît? Elle me dit comme ça, elle me dit, t'es pas au courant, on est cousins avec Laurent Wauquiez. Mon pote, j'étais pantois. Alors, parce que je pense que vous êtes en train de vous dire, oui, mais c'est un cousin au 14e degré, père éloigné. Justement, non. Mon grand-père, il avait une sœur, et cette sœur, c'était la grand-mère de Laurent Wauquiez.
Ah bah oui, parce qu'il a une grand-mère belge.
Ah bah oui, bah évidemment, et tous les Belges sont de ma famille. Oui. Non mais je sais pas si vous voyez la proximité, mais on est quasiment jumeaux avec Laurent Wauquiez. Alors pas jumeaux, mais on est français de souche, de la même souche. C'est ça qui est fou quand même. Et donc si ça se trouve, quand j'avais 3 ans dans une réunion de famille, j'ai regardé Casimir avec Laurent Wauquiez à la télé. On a mâchouillé les mêmes doudous. J'ai partagé ma bave avec Laurent Wauquiez. Alors évidemment, je reconnais que l'info est surprenante si on sait vraiment qui est Laurent Wauquiez, parce qu'hier je dis ça à un pote, je dis putain, je suis cousin de Laurent Wauquiez. Il me dit non, le mec des grosses têtes. Je dis non, alors, t'as pas compris vraiment. Donc voilà, c'est mon cousin Bruno Gassieux, vous êtes parrain de cette émission. Donc Laurent Wauquiez, c'est mon cousin. Ça fait un peu comme si Laurent Wauquiez était de votre famille. Faut qu'on se fasse une cousinade, un de ces quatre, hein, pas de doute. Mais moi, maintenant, j'avoue, franchement, j'aime bien Laurent Wauquiez, moi. J'ai un peu revu mon opinion sur lui. Alors, Guillaume, je te dis plus jamais, mon pote, plus jamais tu te moques de ma famille. Lolo, c'est la famille, mon pote. C'est la MIFA, tu le touches, tu me touches. Attends, Laurent et moi, c'est le sang, mon gars. Voilà. Alors, c'est pas le fait, en plus, qu'ils soient de droite, moi, qui me choque dans ma famille, parce que j'en ai plein des gens de droite dans ma famille, moi. Sur le WhatsApp, je peux vous dire, ils étaient tous étonnés d'apprendre que Laurent Wauquiez, c'est le cousin, mais pas étonnés, choqués. Ils étaient étonnés, fiers, contents. Ils disaient, oh, Laurent Wauquiez, c'est génial! Je peux vous dire, moi, quand sur Internet, on me dit espèce de gauchiste bien pensant, les gens croient que ça m'affecte, mais moi, ça me rappelle juste les repas du dimanche en famille, hein, vraiment. Et en même temps, c'est vrai qu'on l'entend moins en ce moment, Laurent Wauquiez. Il s'est pas présenté à la primaire de droite, parce que je me dis, si ça se trouve, lui aussi, il a découvert que j'étais son cousin. Et il s'est dit, je suis foutu, je passerai jamais avec une casserole pareille. Parce que j'imagine, chez les Républicains, être cousin proche d'un chroniqueur France Inter, c'est éliminatoire. Et en même temps, je me dis, est-ce qu'il est vraiment encore de droite, Laurent Wauquiez? Parce que perso, je le trouve plus feel good, moi. C'est vrai, il dégage une bonne vibe en ce moment. Et comme aujourd'hui, tout s'est décalé vers une droite encore plus extrême, lui, comparé aux autres, il est quasiment devenu gauchiste, sans bouger. Il est resté au même endroit. Et Wauquiez, en vrai, ça se prononce Wauquiez. Eh ben ouais, mais c'est pas pour rien. Ben vous savez pas, mais moi je le sais, c'est de ma famille. D'ailleurs, j'y pense. Si la gauche aujourd'hui elle a du mal à trouver un leader charismatique pour la rassembler, est-ce que vous voulez que je passe des coups de fil? Parce que moi, je peux passer des coups de fil en famille, parce que je me dis, il a réussi à fédérer plein de fois la gauche contre lui. Peut-être il peut fédérer la gauche avec lui. Allez, viens mon Lolo, tu nous rejoins. Profite du regroupement familial, on est bien à gauche. Je te jure, on est avec Guillaume Meurice, Bruno Gassiot. On est en train de cracher du feu en buvant de la 8-6. Allez, viens, je te pistonne. Si, si, la famille.
Thomas VDB, merci.
De rien.
On est désolé, mais on vous garde quand même.
Ah, vous êtes sympa.
Avec plaisir. Merci beaucoup, Thomas VDB. On va aborder ce dernier sujet. Vladimir Poutine s'intéresse de près aux blagues des humoristes. Ils sont désormais surveillés par des membres des services de sécurité pendant leur spectacle. Et ce, depuis l'arrestation de l'opposant Navalny. Dans les bars moscovites, derniers espaces de liberté, le public répond pourtant présent, ce qui traduit l'appétit des Russes pour un rire caustique et non censuré, à l'inverse de celui qui est diffusé à la télévision là-bas. Et Poutine, est-ce qu'il n'a pas un rire caustique aussi?
Ah oui. Et moi qui me croyais le roi des mauvaises blagues.
Ça fait froid dans le dos, c'est The Dark Knight, la trilogie Batman réalisée par Christopher Nolan. C'est un article publié récemment dans Le Figaro, fameux journal satirique, qui explique que les humoristes sont surveillés, et cela depuis l'arrestation de Navalny. Alors pourquoi le rire, Bruno Gassiot et Philippe Eugène Gréco, pourquoi le rire serait-il un danger pour le pouvoir dans le fond? C'est juste des blagues. On n'a jamais vu un humoriste déclencher une révolution.
Je sais pas.
Ça s'est vu. Une blague qui un humoriste qui déclenche une révolution.
Non, mais
une révolution. Mais Coluche, à l'époque, il a bien été embêté. Hein.
Ouais, mais quand il a arrêté de faire des blagues, non?
Bah non, c'était une grosse blague. C'était une très grosse blague. Non, mais quand une démocratie a peur de sa moquerie, c'est un symptôme de maladie. Normalement, la démocratie, elle est plus forte que la moquerie.
On parle de Poutine, oui. Pas forcément de démocratie.
Donc ça pose un problème. Mais j'ai vu, il y a un excellent documentaire sur Netflix qui parle des comiques en Somalie, des comiques en Syrie, des comiques au Pakistan. Ouais. Et il y a des gens qui font ce que font ces stand-uppers à Moscou. Ils sont dans des petits bars et ils font des vannes. Et ils font des vannes, pas sur des choses inoffensives du comique inoffensif sur les hommes, les femmes, les choses comme ça, mais c'est vraiment sur la politique des endroits. Et on les laisse un peu faire, parce que les tuer, en fait, est contre-productif pour le pouvoir. Et donc, le fait de s'y intéresser finit par attirer du monde, qui finit par penser des choses différentes, et à ce moment-là seulement, on les écarte. Mais il y en a toujours eu. Et vous pensez
que le rire, ça peut amener les gens à penser des choses différemment?
Bah oui. Ouais. Oui, ça dépend de la forme que ça prend. Et quand ça s'institutionnalise, comme les guignols avaient été institutionnalisés, ça finit par être... ça fait partie du paysage, 3,5 millions de personnes qui regardent un truc. C'est pas une doctrine, c'est simplement une autre façon de voir, sur un autre angle. Et les gens se disent, ah, cet angle-là me plaît aujourd'hui. Ah non, là, il se trompe. Là, oui, là, non. Mais c'est un point de vue. Quand on enlève tous les points de vue et qu'on ne laisse exister qu'un seul point de vue, eh ben, il n'y a plus de démocratie.
Mm-hmm. Moi, il y a un moment où je pensais tout à fait le contraire. C'est-à-dire, j'avais commencé à écrire un bouquin où, en fait, un mec décidait de tuer tous les comiques parce que ça, ça divertissait les gens et ça les évitait de penser aux vrais problèmes qu'il y avait. Donc, on faisait passer des mecs à la télé, les gens se marraient, le lendemain, ils racontaient ça plutôt que de raconter la vraie vie. Et en fait, le personnage principal de ce livre commençait à dessouder tous les comiques, puis après les animateurs, puis ils tuaient tout le monde, quoi, parce qu'ils disaient, faut que les gens se rendent compte de ça.
Mais
moi, je pense que finalement, divertir les gens, ça peut être quelque chose qui fait oublier,
aujourd'hui. Oui, effectivement. Alors, Juliette Arnault, vous avez un questionnaire de Parjupi Proust pour nos deux invités.
Nom de chien.
Sur l'échelle de l'humoriste stéphanois, le ou la plus célèbre, 10 tout en haut étant Muriel Robin, 0 tout en bas étant Alexandre Astier, bah ouais, les Lyonnais, bouh! À combien et vous situez-vous?
Ah, moi je suis pas comique, mais je dirais...
Non, bah des gens drôles, allez.
Dans les gens drôles?
Oui.
Moi?
Oui.
Deux?
Moi 7.
Heureusement que t'es là.
En exil sur une île déserte, vous emmenez quoi avec vous? La fourme de Montbrison, le pila ou un poster de l'Ange Vert?
Ah, moi, Bruno, c'est sûr, la fourme d'Arbert. La fourme directe.
Avec du sarrasin.
J'amène tout ça au
milieu. Vous êtes vraiment des grosses bouffes. Tout le monde le sait, Saint-Etienne, c'est la banlieue de Lyon. Oui, ouais. Je coécris avec un Lyonnais. Quelle spécialité lyonnaise vous aimez secrètement? Vous pouvez dire l'arrogance.
J'aime bien les gratons.
La bouffe encore.
Oh ouais, non, mais...
c'est pas les spécialités, je crois.
C'est éventuellement les quenelles. Mais
voilà. La soie.
Et allez, la bouffe. Quel cliché sur Saint-Etienne vous agace le plus, à part le foot, Saint-Etienne, c'est que dalle. Saint-Etienne, c'est la capitale du chômage, où on picole à Saint-Etienne dès 9h du mat. Alors que c'est pas vrai, on commence à 7h.
Oui, on commence plus tôt. Puis à Saint-Etienne, on rentre dans le café, on boit un grand verre de vin, on dit putain, j'ai une de ces soifs. Ouais. Non, moi, ce qui m'énerve, c'est qu'on parle de la Roumanie à 3h de Paris. Alors que c'est 3h30 à peu près. C'est le TGV et pas en TGV à partir
de Lyon. Il paraît qu'il y a un truc vrai, c'est l'office de tourisme de Saint-Etienne, on leur a dit qu'est-ce qu'il y a à faire ici? Vous pouvez aller à Lyon, ils leur ont répondu l'office de tourisme. C'est vrai.
C'est vrai.
Bah, allez à Lyon.
Allez, une dernière question. Bruno, vous avez été mon babysitter. Est-ce que vous avez d'autres motifs de fierté dans la vie?
Alors, plus aucun. Plus aucun. Franchement, c'est... c'est vrai que j'ai été ton babysitter.
Ah là là. Et il y a quand même un lien, vous avez été le babysitter de Juliette Arnault et vous êtes parrain de cette émission. Il n'y a quand même pas de hasard dans la vie. Merci beaucoup, merci Philippe Biancreco, merci Bruno Gassio. Je rappelle la pièce de théâtre Les Pâtes à l'ail qui se joue au Café de la Gare en ce moment, vendredi et samedi à 21h, c'est jusqu'au... mi-décembre pour l'instant.
Mi-décembre, 18.
Voilà. En tout cas, c'est drôle, c'est sensible et c'est très très bien écrit, on vous le conseille. Et merci beaucoup d'avoir passé cette heure avec nous, surtout que Bruno, pendant une heure, vous n'avez pas tweeté et ça fait des vacances. Je vous dis à demain, nous recevrons Eddie Depreto, un chanteur hyper à la mode.
Comme je vois que vous êtes du showbiz, est-ce que des fois vous connaissez pas Eddie Barclay?